Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Clément.
Salut Bart.
Eh bien écoute, je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Extraterrien. D'ailleurs, j'abuse, c'est un peu un abus de langage parce que c'est... Toi qui me reçois dans les locaux de Puma.
De Puma, ouais. Ouais.
Très, très beau showroom. D'ailleurs, merci à Héloïse qui a organisé cette rencontre. Donc toi, tu es brand manager chez Puma, exactement.
C'est ça.
Depuis bientôt 2 ans, c'est ça?
Ouais, en septembre, ça fera 2 ans que j'ai rejoint Puma, ouais. Exactement. Okay.
Eh ben, écoute, super. Et aujourd'hui, en fait, on va faire un épisode un petit peu différent, effectivement, de ce que je fais d'habitude. Tu me posais la question d'ailleurs sur ce pari de ligne édito. Mais le but, c'est aussi de d'apporter de la valeur aux auditeurs et de comprendre un petit peu l'avenir du running, de comprendre les nouvelles tendances qui vont arriver, et aussi de voir comment est-ce qu'une marque comme Puma peut essayer de se positionner. Mais avant qu'on rentre dans tous peut-être les termes un peu barbares, un peu techniques qu'on va aborder, et je suis sûr que ça va être vraiment passionnant. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir le son de cloche de l'autre côté de la barrière. Comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast extraterrien. Tous les athlètes, tous les invités y passent, et ceux qu'on soit athlète de haut niveau ou pas, c'est de passer par la première question habituelle, et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, j'ai réfléchi à la réponse. Je pense que mon premier souvenir de sport, c'est quand j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde 98 à la télé avec mon père. Et je me rappelle en fait très bien les différents moments et les différents cris de joie, surtout de son côté. Je m'intéressais pas vraiment encore au foot à cette époque-là, mais après, l'intérêt est venu justement à cause de cet événement-là. Et puis, je pense que c'est resté dans la mémoire de beaucoup de gens qui ont au moins mon âge. voilà, c'est, je pense, mon premier souvenir de foot, c'est ça.
Ouais, ok.
Et mon premier souvenir de sport, pardon.
Mais le foot a pris beaucoup de place, hein. C'était un sport, un événement tellement marquant. Tu devais avoir quoi, 8-10 ans à peu près, c'est ça?
On est là. Ouais, 98, ouais, j'avais 10 ans, ouais.
Ok. Ouais, donc ça prend tellement de place que
c'est vrai.
On est pardonné.
Ouais, c'est peut-être pas le premier directement, mais en tout cas, c'est le premier auquel j'ai pensé. Et peut-être qui a le plus marqué. Donc c'est celui que j'ai choisi là.
Ok. Est-ce que c'est ce type d'événement qui t'a donné envie de bosser dans le sport plus tard?
Eh ben non, pas du tout.
Peut-être rapidement.
Non, mais en fait ça c'est une question intéressante. Je suis venu dans le sport plus tard. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune.
Ouais.
J'ai fait du, j'ai commencé par le tennis à 6 ans. J'ai fait du judo. J'ai fait un peu de basket. Ensuite j'ai fait du foot. Je suis allé, j'ai commencé mes études supérieures et j'ai tout arrêté.
Ok.
J'en faisais plus du tout, plus rien, étonnamment. Je me demande toujours comment c'est possible.
Beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là.
Ouais.
Tu passes ton bac, tu commences les études supérieures et là.
Ouais, mais même au lycée, je faisais plus grand-chose en fait. Le sport, concrètement, ça m'embêtait quoi. Les cours de sport m'embêtaient. Et enfin, je trouve ça étonnant maintenant quand j'y repense, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis vraiment mis au sport dans ma dernière année d'études. Et après, j'imaginais pas du tout travailler dans le sport. Et puis un jour, c'est un peu arrivé comme ça. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler en agence de com, où j'ai travaillé pour des missions en sport. Dans le domaine du sport, j'ai notamment travaillé sur le social media pour l'UTMB.
Ok.
Et donc du coup, ça c'était intéressant. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et c'est en même temps que je me lançais à fond dans le sport, dans la course à pied particulièrement.
Ouais.
C'était la même année où j'ai couru mon premier marathon. et après, je suis devenu progressivement accro en fait à ça, pour en faire de plus en plus. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à travailler dans une agence de com qui travaille uniquement pour le groupe Adidas.
Ok.
Du coup, là, c'était sport à temps plein quoi. Adidas, c'était mon seul client. Je travaillais en exclu pour eux. C'était hyper intéressant, hyper challengeant sur des sports intéressants. C'était beaucoup c'était pour Adidas T-Rex qui s'appelait Outdoor à cette époque-là.
Ouais.
Donc c'est tous les sports d'outdoor.
Ouais.
Donc c'est hyper intéressant, hyper passionnant. L'outdoor globalement, c'est des gens très passionnés.
Ouais.
Du coup c'est hyper bien.
T'as beaucoup de contenu.
T'as beaucoup de choses à faire. Ouais. Et puis quand tu vas faire des shootings, c'est magnifique, quoi. C'est pas. Tu vas voir dans les montagnes, tu vas chercher des cascades de 30 mètres parce que tu dois shooter un kayaker. Enfin, c'est génial, ouais.
Donc là, le virus.
Ouais, vraiment. Et puis après, je faisais beaucoup de sport à côté. Et j'ai eu l'occasion ensuite. Je travaille un moment pour ASICS, donc à l'Europe, à Amsterdam. Sur la catégorie running et justement en fait il fallait pratiquer et puis moi je pratiquais à fond, je courais beaucoup, je cours toujours mais moins, j'ai changé de focus. mais c'est parce que justement je fais du sport que j'ai pu décrocher ce job là. C'est pareil chez Puma en fait, je peux pas être brand manager sur différentes catégories. Chez Puma on est splitté en catégories.
Ouais.
Donc moi je fais le running et le training. Training
quand
tu en dis
catégorie, c'est les sports. Ou
ouais, c'est plutôt sport. Voilà. Ouais. C'est plutôt des business units en fait en interne.
Ouais. Okay.
Donc t'as la catégorie running training. Training, nous on dirait fitness en français, je pense. T'as la catégorie foot, la catégorie sport style, la catégorie basket. Et moi, je suis sur le running training. Et après, ce qui est peut-être intéressant là-dessus, c'est moi, en tant que brand manager, en fait, ça fait une vraie différence que je pratique ces sports-là. Running, je cours. Enfin, j'ai fait plusieurs marathons, 6 ou 7, ça dépend comment on compte.
selon la police ou les manifestants, c'est ça?
Ça dépend si tu comptes, je crois qu'on appelle ça sec ou pas sec. Parce que j'ai fait un marathon, en fait, avec des obstacles.
Ouais.
Donc, okay. Une course d'obstacles sur distance de marathon. Donc, techniquement, c'est pas un marathon, mais c'est enfin. Donc, ça dépend comment tu comptes. J'ai eu l'occasion de faire du triathlon. Je suis allé jusqu'au demi-Ironman. Je m'apprêtais à passer à vrai Ironman, finalement. J'ai droppé entre temps. Peut-être pour plus tard. J'ai encore le temps. Donc, du coup, je pratique ça. Et pour la catégorie training, en fait, je vais pas mal à la salle. Je fais beaucoup de crossfit en ce moment.
Ouais.
Et, si tu veux pratiquer ces sports-là, ça fait une vraie différence pour mon job.
Ouais.
On est, je pense, potentiellement interchangeable chez Puma. Je pourrais faire le job de ma collègue en foot. Je pourrais faire le job de mon collègue en sport style.
Ouais.
Néanmoins, parce que je pratique des sports-là, j'ai de la valeur ajoutée que peut-être les autres n'ont pas sur cette catégorie ou de toute façon qu'ils n'ont pas. Moi, je, par exemple, je m'en fous des tendances lifestyle, de la mode, etc. Donc, je pourrais faire le job, oui, de brand manager sport style, mais pas aussi bien que le fait Charlie. Même si je regardais le foot à 10 ans, quand je regardais la Coupe du Monde 98, je regarde plus, ça m'intéresse plus. Ouais. Et donc, j'aurais pas, en fait, cette valeur ajoutée qui fait la différence. Par exemple, okay, un détail qui peut paraître bête, mais bon, je suis en période de recrutement d'une stagiaire là. Donc, c'est régulier, hein, tous les 6 mois, il faut qu'on en recrute des autres. Donc, évidemment, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en running.
Ouais.
Parce que du coup, le job sera plus simple. T'auras pas besoin de tout lui expliquer, etc. Du coup, je lui pose la question. Je dis elle parce que pour l'instant, j'ai eu que des filles. Voilà, c'est bien, ça apporte un peu d'équilibre. Du coup, je lui pose la question. Est-ce que tu t'y connais en running? Bah, naturellement, quand t'es dans un processus d'entretien, tu dis oui. Est-ce que tu cours? Oui. Et mais moi, j'ai besoin de savoir si c'est la vérité. Et donc, je lui pose la question. Et quand tu vas courir, est-ce que tu fais un simple nœud ou un double nœud? Et donc, si elle me répond pas un double nœud, je sais qu'en fait, elle court pas. Parce que tous les vrais coureurs et les vraies coureuses le savent. Hein. Ils vont faire un double nœud.
Bien sûr.
Parce que t'as pas envie, en tant que coureur, t'as pas envie de t'arrêter pour, enfin voilà, t'as pas envie de t'arrêter parce qu'il faut que tu mettes ta Garmin ou autre montre en pause, que tu te penches, que tu refasses tes lacets, ça te fout en l'air ton chrono, etc. Non, il n'y a pas moyen. Enfin, les runners, ils font pas ça.
Ouais.
Et ça, je le sais parce que je pratique. Mais j'ai pas une liste comme ça de choses, de détails qui font la différence. Que je peux, en fait, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Non, c'est trop long en fait. Donc ça va beaucoup plus vite en fait de pratiquer parce que t'as une valeur ajoutée. Ou un autre exemple qui me vient en tête, j'avais vu une marque et je veux pas la citer. Et puis c'est mieux de pas la citer, qui avait fait une vidéo de promotion où t'avais un coureur qui s'arrêtait de courir et qui mettait pause sur sa montre à 5 km 97. Et il y a aucun coureur, il y a aucune coureuse qui va pas jusqu'à 6.
Si tu es à 30 mètres effectivement de 6.
Ça n'arrive pas. Je veux bien sur la vidéo, tu as le droit de t'arrêter à 6 km 07. Fine. Tout le monde sera d'accord avec ça, il y a pas de souci. Mais 5,97, il y a personne qui s'arrête.
Ouais, c'est des petits détails.
Ouais, c'est les petits détails où en fait toi tu le sais et après quand tu vois ça, si Puma, nous Puma Running, on cherche la crédibilité sur cette catégorie, et ben c'est ces détails là en fait qui font la différence. C'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'on est sérieux, qu'on comprend les runners. Enfin bon, ouais. Moi je fais du marketing, là-bas c'est comprendre les gens.
Tout
et je peux mieux les comprendre si j'arrive à me mettre à leur place. Voilà, sur la catégorie training, moi je supporte pas de voir un visuel où c'est où il y a un demi squat. Le squat en fait c'est sous la parallèle, c'est comme ça.
Exactement.
Voilà, bon. Après, j'ai beaucoup parlé, donc je t'en prie, je te laisse rebondir.
non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que, tu vois, dans le sport, c'est un des rares, on va dire, catégories... Enfin, c'est une des rares catégories professionnelles où si tu le pratiques pas à 100%,
oui,
tu peux pas bosser dedans.
Tu vois,
tu peux pas bosser dans l'univers du sport si tu fais pas de sport.
C'est
alors, il y a quelques contre-exemples, tu vois. Là, je lisais la biographie d'un fondateur d'une autre marque très connue,
ouais.
Dont les associés étaient obèses, alcooliques et énormes fumeurs. Mais donc, il y a des contre-exemples, effectivement, il en faut toujours. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi.
Non.
Alors que, tu vois, c'est, effectivement, si tu... Je sais pas si tu, j'ai des copains qui développent un logiciel comptable. À côté de ça, le soir, ils rentrent chez eux, ils font pas de comptabilité, tu vois. Ils rangent, ils vont pas pour le plaisir.
Tu peux être très bon dans ton job, mais est-ce que tu auras autant de valeur ajoutée que quelqu'un qui est passionné ou qui sait en fait de quoi ça retourne?
Tout à fait.
Je pense ouais que tu peux avoir une vraie différence. Après, t'as le droit de t'intéresser au sport, etc. Enfin, je peux prendre l'exemple de. D'Audrey qui était notre brand manager foot, oui ok elle joue peut-être pas au foot mais elle s'intéresse à tout et elle connaît tout.
Ok.
Et donc c'est suffisant.
Ouais.
En fait parce que tu comprends la passion etc. Enfin et que tu connais plein de choses quoi sur le foot et donc là t'as une vraie différence.
Faut cette empathie là en fait.
Ouais il faut cette empathie ouais il faut que t'arrives en fait à te mettre à la place du consommateur et puis ben en anglais on dirait littéralement que tu te mets dans les chaussures du consommateur. Ben en running c'est carrément vrai parce qu'il y a tout en fait qui passe par la chaussure.
Ouais. Hein,
on est à 82% du marché 82-85% du marché du running en France c'est de la chaussure. Donc okay. Le reste c'est du textile, les accessoires, etc. Enfin quand tu vois le prix par exemple d'une montre GPS, tu dis bien que le textile doit peser pas grand chose.
Ouais.
Donc c'est essentiellement de la chaussure.
Donc ce que tu dis c'est que sur le matériel qui est vendu, 82% du
sur 100 € dépensés dans la catégorie running en équipement, chaussures, textile, accessoires. Donc accessoires tu mets toutes les montres connectées, etc.
Ouais, et puis les les chaussettes de compression, tes portes dossards, tous les gadgets qu'on peut imaginer.
Ouais, des gels, etc. Et donc il y a 82 à 85%, c'est de la chaussure. Ouais, c'est de la chaussure, c'est l'essentiel en fait du marché, c'est ça.
Ouais. Okay. Donc il faut se mettre dans les baskets du coureur.
Il faut se mettre dans les baskets comprendre. Du coureur. Et puis il y a un exemple que je prends toujours en parallèle, toujours avec mon collègue Charlie qui fait le lifestyle. Si t'as un youtubeur très connu qui est très tendance qui te dit ben ça je sais pas la Puma Slipstream qui va sortir c'est la chaussure hit de l'année, moi en tant que consommateur si je suis sceptique je l'achète, après je la mets au pied et puis mon entourage me dit elle est trop bien cette chaussure, ben je me dis ok qu'est-ce que j'en savais, il avait raison en soi.
Ouais.
Par contre une chaussure de running, si blogueur intel, si extraterrien, elle me dit c'est la chaussure la plus confortable que j'ai jamais essayée et que moi en tant que consommateur je l'achète, je l'essaie et après je la trouve qu'elle me fait mal aux pieds, c'est fini en fait. Tu peux être aussi convaincant que tu veux en fait, le ressenti passe quand même par toi, t'as ton propre sentiment en fait et ça c'est la vraie différence en running. Donc t'es obligé en fait de te mettre à la place du consommateur, d'essayer les produits, de voir la différence et si les produits sont bons, t'arriveras à les vendre. S'ils sont pas bons, c'est dur. Hein. C'est vraiment.
Ouais, c'est le produit avant tout. Ouais.
Ouais, le produit avant tout. Ouais. En running, c'est vraiment le produit avant tout. Et t'es obligé en fait de faire. Tu commences par là. Tu fais des super produits. Et après, il faut que t'arrives à bien communiquer, bien dire comment ils sont tes produits, pourquoi est-ce que tel et tel produit est bien pour tel et tel type de consommateur, etc.
Ok. Mais on va parler de tout ça dans un petit instant. Juste avant, c'est peut-être pour préciser aux auditeurs et moi aussi pour ma curiosité perso.
Bien sûr.
En quoi consiste le rôle d'un brand manager, du coup, que ça soit pour Puma ou pour une autre marque.
Alors le rôle en fait, c'est on essaye de faire rayonner la marque, et je vais expliquer. Sur le marché et les catégories sur lesquelles on travaille. Donc dans mon cas en fait, comment je peux faire rayonner la marque Puma en France sur les catégories running, training, enfin sur ces sports-là.
Ouais.
Donc si on rentre un peu plus dans le détail et dans le technique, et ça va aider en fait pour expliquer. Donc tu prends en fait ce qu'en marketing on appelle ça un funnel.
Ouais.
Ok, donc un entonnoir où tu commences par tout en haut ta marque. Quelle est sa notoriété? Donc sur 100 personnes, si je prends 100 personnes au hasard, idéalement un échantillon représentatif, sur ces 100 personnes, il y en a combien qui connaissent la marque Puma?
Ok.
Ok.
Donc toi, tu t'intéresses par exemple plus aux runners, quoi.
Voilà.
100% des...
Okay. Alors du coup, en fait, soit tu peux faire sur la marque Puma, soit tu te dis, ok, sur 100 coureurs, combien connaissent la marque Puma?
Ouais.
Ok. Donc ça, le premier niveau, c'est la notoriété.
Ok.
Deuxième niveau, c'est la considération. Sur ces 100 personnes, donc on va dire il y a 90 personnes qui connaissent Puma Running. Sur ces 90 personnes, il y en a combien qui vont la considérer pour leur achat de leur prochain achat de chaussures de running.
OK.
On va dire donc là tu as à chaque fois de la déperdition.
Ouais.
On va dire tu es à 70%. OK? Mmh. Donc sur les 100 de départ, tu en as 70 qui vont considérer Puma pour le prochain achat de chaussures de running. Après, le niveau d'en dessous, donc on a d'abord notoriété, puis considération. Le troisième niveau, c'est la préférence.
OK.
Donc j'ai moi en tant que runner, je connais 5 marques.
Ouais.
Je vais en considérer 3 pour les achats. Par contre, ma préférence va pour au hasard Puma.
OK.
Et après, t'as l'achat. Puis, du coup, t'as la loyauté de marque et l'achat répété. Okay. Et c'est surtout, en fait, les trois premiers leviers qui sont intéressants. Donc, notoriété, préférence, considération préférence. Mmh. Et en fait, moi, en tant que brand manager, je peux influer, en fait, sur chacun des, sur ces trois niveaux, suivant là où t'es. Si je suis brand manager Puma Foot, j'ai pas besoin de notoriété. Parce que tout le monde sait que Puma fait du foot.
Parce que Samuel Eto'o, parce que Drogba, je crois.
Parce que Thierry Henry, Pelé, parce que Maradona, parce que Dortmund, parce que l'OM, parce que Milan AC, Manchester City, etc. Enfin, l'Italie. Mmh. Voilà.
Alors, pareil, j'imagine pour l'athlétisme et le sprint.
Voilà.
Avec la Jamaïque et...
Exactement, et exactement.
Okay.
Par contre, en running, on a relancé une gamme... donc la gamme Nitro en mars l'année dernière.
Ouais.
Et donc là, en fait, il fallait beaucoup, beaucoup axer sur la notoriété. Parce que du coup, les runners ne savaient pas que Puma a une nouvelle gamme de running, fait du running performance. Mm-hmm. Et donc, on peut influer en fait sur ce premier pilier ou ce sa première étape de l'entonnoir. Et en fonction de là où t'es, en fait, tu vas avoir différentes actions à différents endroits. Si tu vois que tu as une grande déperdition, par exemple, sur ta préférence de marque par rapport à tes concurrents principaux que tu as identifiés, si tu vois que, avant je donnais l'exemple 90-70 et admettons ta préférence c'est 50, le concurrent d'en face, il est aussi à 90, après à 70, mais après lui il est à 60, en fait toi tu es 10 points d'écart par rapport à cette autre personne. Et donc comment tu fais en fait pour augmenter ta préférence de marque? Et tu as des leviers, tu as des actions.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et en fonction de ça, on va choisir ce qu'on va faire en termes d'action marketing. Et ça, c'est mon job hein, de prioriser entre, OK, là, on va plutôt bosser la notoriété, on va plutôt bosser la préférence, on va plutôt bosser la considération, etc. etc.
OK. Donc toi, tu pilotes les actions de communication et de marketing pour que les runners du coup connaissent mieux les chaînes de produits
petit à petit
effectivement les guider on va dire dans leur choix d'achat. Mais écoute, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi je suis très content qu'on puisse en parler parce que effectivement tu vois quand on a commencé à discuter de Puma, moi j'avais une vision de Puma qui était très élitiste. Qui était effectivement Samuel Eto'o dans le foot, les sprinteurs aussi, vous avez beaucoup de sprinteurs sur du 100 mètres.
Ouais.
Je pensais aussi à quelques demi-fondeurs français que vous avez eu il y a quelques années en athlé.
Ouais.
J'étais super présent et donc j'avais pas forcément l'image de la marque, tu vois, d'une marque un peu plus mainstream, grand public, que tu vois, moi, si je veux aller préparer effectivement mon semi ou mon marathon, que je pourrais aller trouver des produits chez vous. Est-ce qu'il y a eu du coup un changement de positionnement, changement de stratégie pour venir sur justement ce segment-là? Comment est-ce que vous y êtes venu et quel est l'objectif un petit peu derrière tout ça?
C'est une bonne question en fait. Et quand t'expliquais, je me posais la question si on a une image un peu élitiste, si ça vient du fait que on a des athlètes qui sont eux-mêmes élitistes et si peut-être, in fine, la marque Puma existe beaucoup à travers ses athlètes. Ce qui peut-être en fait peut aller dans ton sens hein, par rapport à l'image un peu élitiste. Je sais pas d'où vient en fait cette image, mais c'est un bon point. J'y réfléchirai. On verra si je trouve une réponse. Par contre, par rapport à ce que tu as dit, donc là, l'approche, ce qu'on veut faire. Alors, mon manager, il dit un truc toujours que je trouve très vrai. Il dit qu'une marque n'existe qu'à travers ses produits. Donc là, avant, on parlait du running. Les produits sont primordiaux.
Ouais.
Donc effectivement, en fait, il faut qu'on puisse exister à travers nos produits. Il faut que les produits, en fait, soient identifiables et identifiés à la marque Puma, et de faire en sorte de les faire rayonner. Alors, donc là, l'idée, c'est, quand on a relancé cette gamme, donc la gamme Nitro, comme je mentionnais précédemment, l'idée, c'est d'avoir différentes typologies de consommateurs qui cherchent des choses, qui ont des besoins différents. Donc, on a une chaussure, c'est par exemple, tu veux beaucoup d'amorti, ben, tu vas prendre cette chaussure, la Magnify ou la Velocity. Si tu veux une chaussure à plat carbone, tu vas prendre la Deviate, la Deviate Elite, si t'es plus performant, ou même la Faster Nitro Elite, si t'es un super athlète. Si tu veux une chaussure pour du court, on aura la Liberate, etc. Donc, pour les différents besoins des consommateurs, on a différents produits. Et là, l'idée, en fait, c'est de répondre à l'intégralité des besoins, mais aussi, en fait, et ça, c'est contraire à ce que tu disais par rapport à l'image élitiste. Quand on a relancé cette gamme, on a sorti un produit, donc notre produit premium fer de lance, qui s'appelle la Deviate Nitro.
Okay.
Et au moment de la sortie, c'était le produit à la plaque carbone la plus accessible du marché.
Ouais.
Et donc, en fait, on peut pas être à la fois élitiste et avoir le produit à plaque carbone le plus accessible du marché. Okay. Donc, en fait, ça va à l'inverse de ce que tu disais, et ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça permet davantage de démocratiser, parce que nous aussi, chez Puma, on pense que, après, bon, il n'y a pas que nous qui pensons ça, qu'il y a un avant, un après avec les plaques carbone, hein, en running.
Ouais.
Et là, l'idée, c'était peut-être le démocratiser, de le faire essayer à un plus grand nombre. Hein. C'est ce qu'on a fait. On est parti sur les routes. On a fait essayer dans 10 villes l'année dernière, en 2021. On a fait essayer ce produit, 900 personnes, quasi 900 personnes l'ont essayé. Donc on est allé, on présentait les produits, on faisait plusieurs vagues par jour, et c'était super de se rapprocher comme ça des consommateurs et de faire connaître les produits et surtout les faire essayer.
Ouais.
Donc voilà, je pense qu'on s'éloigne un peu de l'image élitiste en ayant des produits plus accessibles. Il y en a d'autres qui sont aussi plus chers, mais après on peut répondre à différents besoins de consommateurs tout en étant, on va dire, relativement accessible. Hein, parce que le prix de vente à 160 euros, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde, mais c'est plus accessible que des prix plus élevés.
Ouais, c'est vrai que avec ces nouvelles technologies, et d'ailleurs moi je serais curieux un peu de on va en parler juste après, je pense, de ces nouvelles technologies et un peu du futur de l'équipement, mais c'est vrai qu'avec ces technos les prix flambent, les prix explosent.
Ouais.
Les marques aussi ont bien compris que il y avait un attrait pour le running qui était hyper intéressant.
Ouais.
Et d'ailleurs, tu vois, moi je suis curieux aussi de savoir dans cet écosystème, avec il y a une demande qui explose, les gens courent de plus en plus. Voilà, bah aujourd'hui on est à Paris, et je pense qu'on, si on marche deux minutes dans la rue, on va croiser peut-être une vingtaine de personnes qui courent. Et ça va être comme ça dans beaucoup de villes en France. Le running a un succès énorme. Il y a une offre aussi qui est vraiment exponentielle. Comment on peut se démarquer, tu vois, quand on est peut-être un tout petit peu moins spécialisé ou dans la tête des gens, en tout cas en termes de notoriété. Comment est-ce qu'on peut apporter un élément différenciant, quoi? Et comment Puma par exemple peut réussir à se démarquer dans cette offre qui est vraiment pléthorique?
Ok, alors pour ça, en fait, c'est assez simple. On a deux typologies de consommateurs. On a identifié deux typologies de consommateurs, donc des runners plus occasionnels et des runners plus confirmés.
Ouais.
Les runners occasionnels, c'est des hommes ou des femmes qui vont courir, je sais pas, une à trois fois, quatre fois par mois. Donc peut-être potentiellement une fois par semaine, ou généralement ces personnes-là ont pas très envie d'aller courir, mais ils courent parce que parce qu'ils ont envie de s'entretenir, parce qu'ils ont envie de perdre du poids, parce que pour un peu dédiaboliser les excès du quotidien, on va dire ça.
Ouais. Et ils achètent une paire de chaussures belles pour se motiver.
C'est ça.
Et se dire, tiens, j'ai fait un achat, je me lance, quoi.
Mais
on voit un peu en tout cas, enfin, je vois des gens autour de moi qui l'ont fait, quoi.
Mais alors justement, en fait, comment on convainc ces personnes? Et alors, ce qu'on note, c'est que ces personnes-là, quand elles vont s'acheter une nouvelle paire de running, elles vont aller demander à leur entourage. Parce qu'en fait, on a tous dans notre entourage au moins une personne qui court beaucoup. Ça peut être un oncle, une tante, un cousin, une cousine, le pote d'un pote, le petit copain de la sœur, etc., qui court beaucoup. Et souvent, en fait, les runners ou les runneuses sont des gens passionnés, donc du coup, ils vont parler autour d'eux, donc on sait qui est cette personne autour de nous. Et après, si moi je suis runner occasionnel, je vais aller demander à ce runner confirmé. Bon, allez, je sais que tu cours beaucoup, t'as encore fait je sais pas quel marathon là, de je sais pas où, avec quel père tu cours?
Ouais.
Et alors, si cette personne, en fait, répond, je cours en Puma, c'est banco parce que le runner occasionnel va leur acheter une paire de Puma.
Ok. Donc ce que tu te dis, c'est que il faut, pour se démarquer, il faut aller toucher le.
Ouais, mais après, du coup, comment est-ce qu'on convainc cette personne-là? Comment est-ce que tu convaincs le grandeur confirmé?
Parce que lui, il connaît tout, il teste tous les produits.
Voilà, il teste tous les produits, oui, et il se tient au courant. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a identifié comme cible ce qu'on appelle la communauté de running. Donc, ça peut être les vendeurs dans les magasins spécialisés, la presse spécialisée, parce qu'on parle beaucoup en fait de la presse papier qui a des problèmes, etc. Enfin, avoir un article dans Runner's World, ça fait une énorme différence en running.
Ouais.
Même si ta diffusion elle est pas énorme, c'est pas grave. C'est mieux d'avoir des comptes un peu de niche sur Instagram où c'est des vrais coureurs, des vraies coureuses ouais. qui ont une poignée de milliers de followers. C'est beaucoup mieux en fait pour convaincre les gens. Donc t'as ça, t'as aussi les athlètes, t'as les différentes technologies. Et donc il faut que tu puisses mettre en avant que tes technologies sont bien parce que X, Y, Z.
Ouais.
Et tout ça en fait fait que t'arrives à convaincre cette communauté de running. Donc il faut que t'aies en fait une approche à la fois technique, pointu, que tu puisses expliquer, justifier tout ça et que tu aies des résultats en fait à montrer. Il faut que tes athlètes ils soient sur le devant des courses.
Ouais.
Il faut que tes produits, quand tu les mets au pied, ils soient super. Il faut que ta technologie, elle ait du sens, ouais. que du coup, elle apporte quelque chose. Et avec tout ça, en fait, tu arrives à convaincre la communauté de running qui eux-mêmes vont convaincre les runners confirmés, qui eux-mêmes, à leur tour, vont convaincre les runners plus occasionnels qui, eux, font le gros du marché, le gros du volume ouais. et qui te permet, en fait, du coup, de te démarquer comme ça.
Ok.
Voilà.
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, en tout cas, c'est un peu cet escalier.
C'est ça.
Ou cette Exactement. Cascade, justement, de valeur. Et puis, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est effectivement des mécanismes d'influence. On
c'est
y
ça.
Est tous, on y est tous.
Ouais, bien sûr.
Sensibles, plus ou ouais. moins, pour certains.
Ouais.
Mais, y a pas de meilleure recommandation que, effectivement,
c'est
quelqu'un
ça.
Qui s'y connaît et quelqu'un qu'on considère et qu'on écoute, quoi.
On a vu que la recommandation, effectivement, par les pairs, ça fonctionne très bien. Avant, je te disais que c'est clé de mettre la chaussure au pied des gens.
Ouais.
Quand on a fait cette tournée dans les 10 dates, en France, on envoyait un mail 3 jours après aux participants et on leur demandait comment vous avez trouvé la paire, etc. On posait des questions et les questions clés en marketing, c'est est-ce que vous recommanderiez ce produit à votre entourage? Est-ce que vous considériez Puma? Donc, je parlais de considération avant.
Ouais.
De préférence, est-ce que vous considériez Puma pour l'achat de votre prochaine paire de running? Et en fait, on arrivait, d'après leur réponse, on a pu arriver en fait à un taux de recommandation de 94%. Okay, donc, sur ces personnes-là, et c'est un vrai test. Hein, on a eu des tests encadrés par des coachs d'athlètes.
Ouais.
D'abord, tu commences à faire tes gammes d'athlètes, et après, tu vas courir, et ça durait entre 45, 50 minutes, une heure, ça dépendait, en fait, d'où on était, dans quelle ville on était, et les gens faisaient entre 5, 6, 7, 9, 10 kilomètres. Donc, c'est pas, 3 fois l'aller-retour de ton Intersport, et puis, tu rentres chez toi avec, avec ta paire. C'est des vrais tests, et je précise qu'on ne donnait pas la chaussure à la fin, on les reprenait.
Ouais.
Donc, parce que quand tu donnes des trucs, c'est toujours plus facile d'avoir des bons retours.
On sait qu'on peut biaiser les chiffres assez facilement. Ouais.
Du coup, avec cet taux de recommandation, en fait, c'est la preuve par les pairs. Et quand on a fait une campagne cette année pour promouvoir ce produit-là, on a simplement mis sur tous nos visuels 94% de taux de recommandation.
Ouais.
En précisant voilà, les modalités, etc. Mais parce que c'est du concret. C'est quelque chose de vrai, en fait. Ça a été validé par les runners en soi.
Okay.
Et donc, on utilise ça. La validation par les pairs, ça fonctionne très bien.
Ok. Ouais, il y a deux choses que je comprends un peu à travers ce que tu dis. C'est que ça suffit plus d'être une marque avec
ouais.
des super valeurs, une super punchline,
ouais.
comme effectivement celle de
Forever Faster, ouais.
de Puma qui est Forever Faster, et j'allais dire Run Faster, tu vois, dans ma tête c'était Run Faster. Vous avez dû utiliser le hashtag pendant un moment, non?
Peut-être.
Mais.
Peut-être avant que j'arrive, ouais.
En tout cas, moi j'avais retenu ouais le Faster, quoi. C'était
ouais, faster,
le plus
ouais.
vite. C'est vraiment ce qu'on retient, mais ça suffit plus. Il
non.
faut que maintenant les gens testent les produits, se les
ouais.
recommandent,
ouais.
Parce que en fait, il y a de plus en plus de gens qui courent, donc il y a plus de gens qui sont experts aussi.
Ouais.
Et du coup, il faut que ça se passe.
Ouais, l'observatoire du running de cette année dit 14 millions de runners en France. C'est plus 1 million par rapport à l'année dernière.
Ok.
Donc c'est surtout estimé, enfin grâce au Covid. Hein.
Ouais.
En soi, parce que c'était un des derniers sports que tu pouvais pratiquer. Donc,
ça joue.
Mais 14 millions de runners en France, ça fait beaucoup. Ça fait une grande part de la population en fait qui court. Hein. Et donc ça fait un
c'est
en un soi.
Français sur 4 quoi, un peu moins, légèrement moins, mais.
Oui, après un Français sur 4 en âge de courir, oui.
Ouais.
Ouais. Oui, parce qu'après tu enfin on est OK, on est 60
les enfants et on va
non,
les,
voilà, les personnes âgées, ouais.
Ah, donc finalement tu es quasiment 1 sur 2.
Ouais, potentiellement, ouais. Ouais. Ça fait beaucoup de gens qui courent, ouais.
Ouais.
Effectivement. Après est-ce que tu es considéré comme coureur là si tu fais une sortie par mois dans ces 14 millions. Donc après oui, c'est pas ton cœur du marché, c'est pas eux qui vont acheter régulièrement des paires de chaussures. Et puis concrètement si tu parles de chaussures performance avec un prix de vente supérieur à 100 €,
tu parles pas à ces gens-là.
Non, parce que généralement ils vont acheter moins cher. Hein. Même au départ de course, j'ai encore fait une course il y a 2 semaines où il y a des gens, ils ont des chaussures à 60 €, qui sont pas conçues pour la course à pied, mais c'est vendu comme des chaussures de course à pied. Ou moi, je recommanderais à personne de courir avec ça.
Bon, si c'est une fois pour un dossard offert.
Ouais, bien sûr, mais après, pour un dossard, est-ce que tu peux aller comme ça au talent, faire un, bon, dans ce cas-là, c'était un 10 km, est-ce que tu peux aller, faire un 10 km, tu cours pas aller pour une fois un dossard? Enfin, bon. C'est quand même le seul lien qui est entre toi et la route, tu vois, entre les impacts que tu vas avoir en courant, enfin, on sait que les impacts sur le corps peuvent être élevés, donc après, ta seule protection que t'as en soi, c'est les chaussures. Donc après, si t'as une mousse qui t'amortit un peu mieux pour limiter ça, c'est super. Si t'as une semelle qui te permet en fait de pas glisser à la première flaque d'eau, c'est encore mieux. Enfin, là, le produit fait une vraie différence.
Ouais. Ok. Et tiens, justement, puisqu'on parle de produits,
ouais.
Alors c'est pas forcément ta spécialité, mais peut-être que t'as quelques infos à nous donner. C'est comment est-ce qu'on construit une chaussure, tu vois, et comment est-ce qu'on va trouver une nouvelle technologie. Tu vois, moi j'aime beaucoup, tu vois, là votre dernière paire, vous avez fait, bon, vous avez fait un pari qui est hyper innovant, c'est que la chaussure est presque transparente.
Ouais.
Et ça, je crois que vous êtes les premiers à le faire.
Ouais.
Donc, tu vois, je l'ai testé, je suis allé marcher un petit peu avec, et c'est vrai que c'est un chausson, quoi. Enfin, c'est incroyable.
Ouais.
Bon, je pourrais plus, mais mettre mes chaussettes avec des cœurs dessus, parce que.
justement, en fait,
ça m'arrivait de courir avec des chaussettes ridicules.
On pense à nos revendeurs qui vendent des chaussettes. Parce que du coup, si t'as un mèche, enfin une tige transparente sur le haut de la chaussure, ben la chaussette est importante. Donc du coup, peut-être, in fine, que ça fera vendre plus de chaussettes. Après, c'est pas notre focus premier chez Puma, mais ça peut aider des revendeurs à vendre plus de chaussettes. Après, pourquoi c'est transparent? Parce que quand c'est transparent comme ça, t'as moins de matière.
Ouais.
Et qui dit moins de matière dit une chaussure plus légère.
Ok. Et du coup là pour ce modèle là que
ouais.
que je vais tester dans les prochains jours, elle fait quel poids?
Elle fait celle-là, elle fait 199 grammes okay. en taille 42.
Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du
ouais, tu sens la légèreté même en marchant. Hein.
Ouais, en les touchant, tu sens que c'est tout léger ouais. quoi.
Alors ce qui est intéressant sur cette chaussure, bon après on pourrait parler des caractéristiques techniques etc etc.
Ça va être trop technique.
Ouais. Après, moi, je te dirais qu'en fait, les gens, ils retiennent pas ça. Ils retiennent plutôt souvent quand on leur raconte ce qu'on fait avec la chaussure, qu'on leur fait vivre des émotions. Cette chaussure, en fait, on l'a donnée à une de nos athlètes qui a fait les marathons des JO.
Ok.
Et elle a fait 3e sur le marathon. La particularité qu'on a chez Puma, c'est qu'on fait pas en fait de chaussures custom pour les athlètes. Toutes nos chaussures qu'ont nos athlètes, c'est des modèles de série.
Ok.
Donc, Molly Seidel, elle fait du 38. Si je suis une coureuse qui fait du 38 et je m'achète cette chaussure, j'ai là exactement la même chaussure qu'une athlète qui a fait 3e au JO à Tokyo.
Ok. Voilà. Ça donne envie.
Ouais.
Effectivement, c'est une belle
Après, je garantis pas les perfs. Hein.
Et du coup, avec cette paire de chaussures-là, donc c'est le modèle masculin.
Ouais.
Il y a eu qui en cet été? Est-ce qu'il y a eu un athlète? Là, je te colle peut-être. Je t'avoue.
Non, bah alors, du coup, on a une autre athlète féminine qui s'appelle Fadou Aledem, une française. Parce que là, avant, on parlait de Molly Seidel, elle est américaine. Ouais. Notre athlète française, elle a fait, par exemple, la parisienne. Elle a gagné la parisienne avec ces chaussures-là.
Ok.
Voilà.
Ouais,
depuis, on a développé une chaussure encore plus haut de gamme qu'on appelle la Faster. Mais après, certains de nos athlètes préfèrent quand même ce modèle-là.
Ouais.
Même si nous, on considère que L'autre modèle est mieux. Après, c'est...
C'est aux athlètes de choisir, quoi.
Ouais, c'est aux athlètes de choisir. Et puis, je pense que c'est la sensation que t'as à chaque fois qui fait la différence, ouais.
Puis, ça fait toujours peur ou bizarre de changer. Je pense que quand t'es un athlète,
ouais,
t'as aussi tes habitudes. Et
ouais,
si ça marche bien, t'as pas toujours envie de changer. Et,
ouais,
et de recasser ta routine, quoi, tu vois.
Ouais, mais après, ça, c'est intéressant parce que, du coup, les athlètes chez nous, ils nous ont confié déjà qu'ils faisaient 80-90% de leur volume sans chaussures à plaque carbone.
D'accord, ok. Ouais.
Et le reste, en fait, c'était chaussures à plaque carbone. Donc essentiellement, c'est les courses et puis les tests, en fait, où tu vas courir un peu plus vite, peut-être au tempo ou à ton allure de course pour te préparer. Mais c'est intéressant quand même de savoir qu'ils font l'essentiel, l'immense, hein, la majorité, hein, si on est entre 80-90%, on est proche de la totalité, en fait, de leur volume se fait sans chaussures à plaque carbone.
Et tu saurais te dire pourquoi ? Ils t'ont expliqué pourquoi ?
Je pense que les chaussures à plaque carbone apportent un vrai plus en termes de performance.
Ouais.
Et je pense que du coup, ça a aussi un coût sur ta récupération.
Okay.
Parce que du coup, en fait, t'es plus performant. Peut-être que tu pousses un peu plus. Peut-être que du coup, le retour d'énergie est plus intense à encaisser pour ton corps. Et donc, peut-être que en fait, l'accumulation de toutes ces choses fait que tu récupères moins bien ou bien... Donc là, j'ai aucune certitude. Ou bien, t'as l'effet inverse, en fait. T'es habitué à courir, en fait, avec des chaussures qui sont potentiellement plus lourdes, qui sont moins dynamiques, qui répondent moins. Mmh. Et après, ton jour de course, t'as des super chaussures. Et puis, de toute façon, tu t'es préparé mentalement, etc. Et puis, t'as le produit qui répond bien.
T'es dans le flow, quoi.
Ouais, t'es dans le flow, ouais.
Ils aiment bien, tu vois, les athlètes de haut niveau aiment bien ce mot et dire.
Ouais, j'ai écouté l'interview que t'as fait avec l'hypnose.
Ouais, effectivement.
Pendant la pratique de la course à pied. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.